J'avais mentionné brièvement, mais je serais bref aussi, l'idée des soirées de la République, c'est de créer un dialogue, d'aborder le soin un peu au-delà de sa dimension thérapeutique, de l'aborder en lien, en articulation avec sa dimension politique, et de pouvoir tirer un fil rouge autour de ça. Et l'idée, en fait, avec Jean, en parallèle, au travers des différentes soirées de la République, c'est de pouvoir questionner cette grande question de qu'est-ce que pourrait être une politique de soins. Voilà, c'est notre projet. Donc pour ce soir, on a intitulé « La place de l'usager dans l'offre de soins ». Et on a trouvé intéressant de pouvoir faire dialoguer en fait deux personnes avec, dans deux contextes différents. Camille, donc, qui est médecin généraliste à Santé Commune, tu l'as dit, très intéressée par la question de la santé communautaire, la santé globale, tu pourras revenir sur ces deux termes, la participation, donc notamment à travers la création des centres de santé, à vocation communautaire et les freins, leviers aussi, hein, à cette création. Et depuis un an et demi, donc tu exerces à peu près un an et demi, tu exerces à Camille, exerce à Santé Commune, voilà. Donc en partie co-gérante aussi de l'association, hein, de gouvernance particulière, et aussi médecin généraliste. Je te laisse présenter
peut-être
Benoît.
Donc Benoît et vous, on s'est connus ici, on s'est rencontrés là. Donc tu es sociologue, maître de conférence à Lyon 2. Donc on a travaillé ensemble autour de ce livre-là qui va sortir dans une quinzaine de jours, qui s'appelle « Bribes de soins ». Et moi j'ai bien apprécié ce travail avec toi et notamment la façon que tu as de travailler avec les étudiants. Enfin, je pense que ça illustre aussi peut-être ce qu'on va aborder ce soir. Toujours de revenir avec eux, de décider avec eux. Moi, j'avais le rôle de l'éditeur, mais toujours de négocier avec l'éditeur, de rien lâcher avec l'éditeur. Et,
je pensais que tu avais parlé du maniement de l'enregistrement. Et stop et go.
Et donc, tu es notamment investi... Dans ce qu'on appelle ce que vous appelez Conf Cap Cap Droit, c'est ça? Je vous fais tourner ce petit fascicule là-dessus. Donc tu vas nous présenter. Je vais tourner le manifeste dans l'autre sens, hein, qui est une démarche scientifique et citoyenne sur la capacité et les droits fondamentaux des personnes fragilisées. Donc voilà, avec Benjamin, on s'est dit que vous aviez, tous les deux, ça pouvait être deux regards assez croisé assez intéressant sur la question de la participation ce qu'on appelle des usagers, parce que bon, le mot n'est pas très joli, mais sur la question de la vulnérabilité et de l'égalité.
Donc, ce qu'on vous avait proposé brièvement, c'était peut-être de recontextualiser la notion de participation, peut-être déjà de voir de vos deux points. Alors, peut-être Camille. Davantage dans l'accès aux soins, hein, une approche de santé globale que je te laisserai peut-être définir. Toi, peut-être Benoît, plus dans l'accès et l'exercice des droits. On a peut-être articulé les deux pans. Donc, contextualisation, après, on peut aller, on avait dit qu'on pouvait aller sur la dimension politique de la participation, son lien peut-être avec la militance. Et voilà, et après, surtout aussi. Je vous laisse la place de présenter votre vision et on partira sur un échange.
Hein. Exactement.
L'idée, c'est vraiment d'échanger.
Peut-être qu'on vous laisse une vingtaine de minutes à chacun. Après, ça peut être moins, ça peut pas trop être plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit.
Je veux bien
ne
pas commencer.
Je veux bien que
tu commences. Très
bien. Guys, first.
C'est reculé pour le mieux, c'est
toi. Je n'ai pas préparé quelque chose de formel, donc je vais raconter comment cette histoire de participation est venue. Est venu rencontrer mes travaux de recherche et peut-être et les impacter. Je suis pas un spécialiste de la participation. Disons, en sociologie, il y a une sociologie des mouvements sociaux qui est un courant assez important de la sociologie qui travaille beaucoup sur les participations, sur les mobilisations. je viens pas beaucoup de là. Il y a aussi une sociologie politique ou la science politique qui évidemment s'intéresse beaucoup à la participation. Je viens pas non plus de là. Je viens plutôt de quelque chose à l'articulation entre la socio de la santé et la socio du droit. Et j'ai beaucoup travaillé sur les mesures de protection, tutelle, curatelle, qui sont donc des mesures qui sont privatives de l'exercice, d'un certain nombre de ces droits. Et donc la manière dont je peux thématiser un peu cette question de la participation, c'est en partie via ce terrain où finalement la restriction de l'exercice des droits est de fait une forme de limitation d'une certaine participation des personnes qui sont touchées par les mesures à un certain nombre d'actes dans leur vie, sans doute pas simplement sur les actes directs visés par le droit, ça a aussi des effets un petit peu indirects sur la vie de la personne, ça l'empêche aussi bien d'un point de vue concret, direct, que d'un point de vue un peu plus symbolique. Donc finalement, j'attrape d'abord la participation par une certaine forme de restriction de participation et de restriction, pas seulement de fait, mais une restriction de droit de la participation. Deux choses là-dessus, donc deux choses assez différentes. L'une des choses qui m'a beaucoup interrogé au moment où j'étais vraiment concentré sur cette recherche, sur le vécu des mesures de protection, c'est le fait que, contrairement à d'autres domaines proches, connexes, du champ de la santé, du champ du handicap, il y avait pas beaucoup de formes politiques de mobilisation, de participation des personnes concernées par ces mesures de protection. Hein. Dans le champ de la psychiatrie, on le sait, il y a les mesures de soins sans consentement. Bon, c'est pas immense la mobilisation sociale autour des mesures de soins sans consentement, mais il y a des mobilisations sociales, il y a des formes de contestation un peu politique, même très certainement politique, de ces mesures de soins sans consentement. On pourrait prendre l'exemple, j'y reviendrai sans doute d'ailleurs, au regard des droits des personnes handicapées, il y a une histoire là assez forte, peut-être plus ou moins récente, mais il y a une histoire forte de la participation, collective. Dans le domaine des personnes protégées par des mesures de tutelle et curatelle, il y a vraiment quasiment pas d'embryon d'une forme de participation un peu politique qui viendrait dire on aimerait en fait avoir une petite voix pour discuter ce qui nous concerne. Il n'y a pas cet embryon là. Alors ça c'est quelque chose qui m'a assez interrogé. D'abord c'est un résultat important et ennuyeux parce que ça prend 5 lignes quoi. Dire qu'il n'y a rien, ça peut être un résultat important et qui ne nourrit pas beaucoup le volume du travail. C'est resté un petit peu dans un coin de ma tête, comment essayer de comprendre pourquoi il n'y a rien, et puis est-ce que c'est inévitable, est-ce qu'il faut être fataliste sur le fait que non, il n'y a pas de mobilisation du côté des personnes protégées. Alors, quand même, l'une des questions que ça pose un petit peu, une manière de poser la question, c'est est-ce qu'il y a des conditions sociales qui permettent la participation? Et donc, de fait, si on est un peu empêché par le droit, si on est empêché par les mesures de protection, ça limite de fait. Il y a là un cercle vicieux, on ne participe pas parce qu'on est interdit de participer, très bien. C'est sans doute une explication. On peut aller chercher aussi plutôt du côté, on va dire, psychodynamique ou de l'état de santé de la personne. Est-ce qu'on ne participe pas parce que son état de santé ne permet pas ou parce que notre manière de participer va être disqualifiée, hein. Donc, il y a ces dimensions qui peuvent expliquer une hypothèse d'une non-participation. Et puis voilà pour le moment où je m'interroge sur la non-participation politique des personnes protégées. Alors parallèlement à ça, ou un peu après ça, je me suis un peu intéressé. Justement, un peu aux recompositions de gouvernance dans le domaine du soin en santé mentale, incluant bien sûr les majeurs protégés, mais pas que, aussi les histoires de soins sans consentement, les histoires où justement la capacité, on pourrait presque dire la capacité à participer, à les fragiliser, comment ça se gouverne, ces enjeux de vulnérabilité. En tout cas, on appelait ça santé mentale à l'époque, dans nos travaux de recherche. Et donc, ça m'a fait revenir à des choses assez classiques en sciences politiques, qui est, en gros, revenir à l'histoire antérieure de la démocratie en santé, de la démocratie sanitaire, ce qu'on a appelé démocratie sanitaire au début des années 2000, parce que il y a eu deux lois coup sur coup qui ont été assez fortement discutées dans le champ de la santé, dans le champ du médico-social, au moment Kouchner. Donc il y a ce moment de démocratie sanitaire qui valorise énormément la participation des patients ou des usagers si on se situe dans le médico-social. Et donc, revisiter un petit peu ces lois, c'est s'inscrire dans un peu aussi dans leur histoire et se dire en fait là il y a une transformation de gouvernance qui est pas propre au champ de la santé, hein, qui est pas propre au champ de la santé. La démocratie sanitaire, ça vient une bonne vingtaine d'années. Après des transformations dans l'organisation de l'État qui invitent à plus de participation des administrés. Hein, il y a tout un certain nombre de lois à partir au moins des années 70 qui viennent dire la démocratie, c'est pas simplement la vie politique, c'est pas simplement être citoyen et voter, mais c'est aussi être un administré, et l'administré qui habituellement se tait dans les bureaucraties traditionnelles, à partir de la seconde partie du XXe siècle, l'administré commence à avoir un peu plus de droits, un peu plus de voix, et donc tout ce qu'aujourd'hui on présente un peu comme du New Public Management a quand même des racines sur une exigence de rendre des comptes aux administrés et faire participer les administrés à l'administration des services qu'on leur donne. Donc ça m'a semblé intéressant de se rappeler que cette question de la participation du patient, c'est la participation de l'administré à un service qu'on lui administre, qui va chercher. Et donc, c'est un cas de figure parmi d'autres du rapport entre administration et administré. Alors, bien sûr, ce cas de figure, il a ses dimensions un peu spécifiques, puisque traditionnellement, on rentre dans l'histoire du paternalisme médical, c'est-à-dire d'une non-symétrie des savoirs. Hein, là, il y a un rapport entre l'administrant, le médecin, et puis l'administré, le patient, qui est fondé sur... Il y en a un qui serait l'expert et l'autre le non-sachant. Hein. Donc, il y a là une asymétrie très forte, asymétrique qui est quand même contestée déjà depuis un petit moment, mais en tout cas les effets des transformations dans le mode de gouvernance sont peut-être particulièrement forts dans le domaine de la santé et du médico-social, qui sont des domaines où l'asymétrie des savoirs est structurellement légitimée, quoi, hein, est fortement légitimée depuis longtemps. Alors, cette histoire de contestation, alors, on va pas dire tout de suite contestation, c'est d'abord dire, oui, il y a quelque chose d'un peu top-down. En fait, l'administration réclame que l'administré participe plus. Hein, voilà, ça commence assez vite. L'administration réclame que l'administré participe plus. Alors, est-ce qu'on peut dire le médecin réclame que le patient participe plus? Je ne sais pas, peut-être, parfois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui marche dans ce sens. Et puis, assez vite, en fait, parallèlement, il y a le discours inverse qui est de dire « Ah non, on revendique une participation qui n'est pas une réponse qu'à une injonction de l'État, d'administration, mais qui vient de nos vécus. Hein, » qui vient de nos vécus. Alors là, le champ du handicap me semble vraiment précurseur. Mais après, dans l'histoire, on sait qu'en France, le contexte sida, la mobilisation des patients est très forte pour faire entendre donc le fait que l'expertise n'est pas du côté seulement du médecin, du sachant. Il y a un autre type de savoir qui est à prendre en compte du côté de l'expérience. Et savoir qui vient, disons, revendication qui vient se dire parallèlement du côté du savoir et du côté de l'exigence de respect des droits, en fait. Hein, il y a quelque chose d'assez concomitant là, on vient s'appuyer sur le point d'appui juridique pour contester la relation de soins telle qu'elle se vivait ordinairement. Hein. Donc, on conteste un peu d'un point de vue, entre guillemets, épistémologique. Ah ben nous, il y a aussi un savoir qu'il faut reconnaître là, et on peut le reconnaître parce que nos droits sont aussi forts que le droit du médecin, quelque chose comme ça. Hein. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de... Alors après, il n'y a pas que ça, mais un petit peu ce qui m'a intéressé, c'est d'aller se dire, bah oui, effectivement, on peut décrire un tournant juridique de la relation de soins, hein, dans l'équilibre entre le souci clinique de l'attention à l'autre, de répondre précisément à son besoin, à son attente, ou le souci de est-ce que la procédure est bien respectée, est-ce que les droits de la personne sont bien respectés, est-ce qu'on fait bien les choses de manière un peu conforme. Bah, sans doute, depuis un petit moment, le balancier va clairement du côté juridique contre une dimension un peu clinique, hein, il me semble. Donc ça, c'est une dimension intéressante, et donc... je continue à m'intéresser à ces choses-là. Dans ce tournant juridique, à l'époque, il y a quoi? Bon, je ne sais pas si je développe un tout petit peu ça ou non.
Ouais.
Ouais. Donc, il y a cette histoire de la démocratisation de la relation administrative. Hein, ce que j'ai raconté un petit peu avant, hein, l'administré est... et a aussi sa casquette de citoyen, il y a la mise en avant des droits fondamentaux. Droits fondamentaux, alors d'un côté ces conventions, c'est ONU, Déclaration des droits de l'homme, 1789, c'est sans doute un truc qui se passe depuis les années 70 également. C'est intéressant, en Amérique du Nord, on dit plutôt au Québec, on dit plus trop droits de l'homme, on dit droits humains. Droits humains, et ça marque en fait une appréhension des droits de l'homme qui est plus celle de 1789, qui est sans doute plus celle de la déclaration de 48, qui est quelque chose qui apparaît à partir des années 70, qu'on se réfère dans des tas de causes sociales, on se réfère aux droits humains pour défendre ces causes. Et donc la fondamentalisation des droits, c'est à la fois des nouvelles conventions, des nouvelles décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel, je ne sais quoi, disons d'instances de haut rang juridictionnel, il y a d'un côté ça, et puis il y a de l'autre côté le fait qu'on se saisit du discours droit de l'hommiste d'une nouvelle manière, on revitalise des revendications par le discours droit de l'hommiste. Donc ça c'est une deuxième dimension, et puis il y a deux autres dimensions qui me semblent intéressantes à évoquer rapidement, c'est quelle place on donne aux juges, hein, on le sait, à un moment donné on disait toujours, on veut pas être comme les États-Unis, on va trop devant le juge aux États-Unis. Alors si on regarde d'un peu plus près, la judiciarisation elle est complexe en fait, il y a toujours des mouvements de judiciarisation qui s'accompagne de mouvements de déjudiciarisation, mais quand même on peut dire que oui, dans le soin, il y a un mouvement de judiciarisation un peu sur certaines choses, notamment le soin sans consentement évidemment, ça devient systématique très récemment, disons depuis 2011, mais aussi sur les questions de tutelle-curatelle, il y a une volonté explicite il y a quelque temps, il y a longtemps, en 68, de démocratiser l'accès au juge, hein, donc de dire il faut aller devant le juge pour résoudre des problèmes qu'avant on pouvait résoudre sans le juge, hein. Donc il y a cette judiciarisation, et puis il y a cette histoire de juridicisation où je pense que les soignants ils vont être sensibles. Bon, il faut toujours remplir un peu plus de paperasse pour rendre compte de l'activité, donc juridifier c'est ces manières de rendre compte de l'activité, pas tant de manière clinique, mais dans un formalisme qui est celui du qui relève de la forme juridique. Hein. Donc ces quatre dimensions, on peut les caractériser un peu. Disons, elles font ce tournant juridique de la relation de soins, de la relation d'accompagnement, qui imprègne les relations, quoi. Et alors. Celle à laquelle sans doute à un moment donné je suis le plus sensible, c'est l'histoire des droits humains, puisque alors que j'ai travaillé pendant quasiment 10 ans sur la tutelle curatelle, personne ne me parle de la convention ONU sur les droits des personnes handicapées. Alors je suis ennuyé au moment où on m'en parle, j'ai l'air un peu d'être crétin, je suis spécialiste du truc, mais je connais pas la convention qui suscite beaucoup de controverses sur la question. Hein. Donc il y a ça qui se passe, je suis un peu ennuyé, je me dis j'ai mal fait mon boulot. Et pourquoi ? Parce que dans cette convention, il y a un article qui dit qu'il faut arrêter avec les mesures de tutelle curatelle, c'est pas bien, c'est pas les droits humains. Alors je suis un peu ennuyé, puisque c'est pas ce que je racontais moi, où je disais c'est plutôt un moindre mal, voilà. Alors, je me laisse interpeller sur cette histoire, c'est pas bien, avec le fait que, en même temps, ceux qui portent ce discours, c'est pour beaucoup des associations de personnes en situation de handicap qui ont réussi à faire reconnaître des revendications comme relevant de droits fondamentaux, et donc qui ont réussi à faire passer une convention internationale, pas simplement une déclaration, une convention qui oblige un peu, avec évidemment des nuances, qui oblige les États. Donc il y a quand même il y a quelque chose d'assez fort que réussissent des personnes en situation de handicap par leur participation à imposer au niveau international. Et puis reste à savoir quels vont être les effets dans la vie des gens au niveau local. Alors si là-haut on pense qu'il faut supprimer les mesures de tutelle curatelle, est-ce qu'on les supprime par exemple en France ? Bon, voilà, donc ça me perturbe un peu, et c'est la naissance de ConfCap Cap Droit. Voilà. Je continue sur ConfCap Cap Droit ou je m'arrête là ?
Non, je pense qu'il faut. C'est bien que tu passes à cette expérience-là.
Donc, Donc le point de départ, c'est initialement, donc c'est, pour l'anecdote, c'est intéressant. On travaillait collectivement sur la capacité à consentir, là, donc contrainte et consentement en santé mentale. Bon. Donc on voulait faire venir un psychiatre américain, la star de la capacité à consentir, quoi. En se disant, on connaît pas bien ses travaux en France, donc on le fait venir, ça permet de faire aussi une conférence intéressante, etc. Puis c'est à ce moment-là que je m'aperçois que cette histoire de capacité à consentir, elle est vachement contestée par le comité des droits de l'ONU, de la Convention des droits des personnes handicapées. Donc, bon, très bien, faisons les choses peut-être un peu autrement. On invite dans l'organisation de la conférence donc des associations du handicap qui sont les seules en France à connaître cette convention. Pratiquement, j'exagère un peu, mais pratiquement. Et puis eux nous disent, dis donc, votre conférence là, vous allez pas la faire. C'est pas votre psychiatre new-yorkais, la guest star sur la tribune. On s'y maîtrise les positions. Hein. Le savoir du médecin qui a 20 lignes là de titre sous la signature, vous la mettez en vis-à-vis d'un savoir d'une personne handicapée. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. On change un peu le format de la conférence. Alors, on change les plénières. Donc on donne autant de temps à la guest star initiale et puis aux nouvelles guest stars. Et puis, l'exigence là, c'est de dire, on essaye de faire participer autant que possible les personnes concernées. Les chercheurs académiques, c'est sympa, vous avez du savoir, les sociologues, mais on veut un tiers de savoir académique, un tiers de savoir professionnel et un tiers de savoir expérientiel, on va dire. Bon. Ça marche pas, ça marche sur les plénières, sur les gens qu'on invite nous, ok, mais on n'a pas de réponse, on a principalement des réponses académiques. Je regarde Christian, il était là. Ça marche un petit peu, pas beaucoup. Donc, on se fait un peu taper sur les doigts par les assos de personnes handicapées qui nous disent, bon, bah, là, faut faire un truc, faut que les personnes en situation de handicap, elles viennent plus facilement sur vos espaces de discussion. Donc, cap droit, c'est continuer cette discussion sur la capacité à consentir, sur la capacité à décider, sur quelles sont les meilleures manières d'apprécier la capacité à décider. On continue, et à exercer ses droits, hein, on continue cette discussion, mais en réorganisant un peu les parties prenantes dans la discussion. Et pour ça, on essaye de créer des groupes locaux où on propose à des personnes fragilisées dans l'exercice de leurs droits de se constituer un peu une expertise pour pas apparaître comme le témoin, disons, la personne qu'on invite. En anglais, ils disent là, parfois on sort un usager, on fait de la porn exhibition. Donc ils nous disent, nous on veut pas ça. Donc il faut que ça soit pas de l'anecdote qui soit racontée par l'usager et du savoir, de l'evidence based par le psychiatre. On essaye un peu d'organiser autrement la rencontre des savoirs, parce que autrement on sait d'avance que l'un qui est beaucoup plus fort que l'autre et que on réduit au titre d'anecdote l'expérience qui va être racontée. Donc on entend ça, mais on se dit, bon, le groupe local d'accompagnement, il vient essayer de détailler l'expérience en la collectivisant, et ben on la rend un peu plus forte, on la structure un petit peu, et peut-être qu'on donne envie aux personnes de venir présenter leur
leur expertise, ce qui vient d'eux-mêmes et puis qui vient de des discussions sur le partage d'expérience, quoi. Donc on a d'un côté un travail en amont avec des groupes locaux d'accompagnement de personnes concernées, avec tout de suite le début des ennuis, l'idée de dire en fait on va animer ces groupes avec cet esprit tiers, disons 3-3, un tiers. On anime les groupes avec un expert académique, avec un expert d'expérience et avec un expert de la relation d'aide. L'animation, la recherche, et ça va vite devenir, il y a assez vite une revendication d'appeler ça de la recherche, quand bien même ceux qui nous finançaient, la CNSA, n'appelaient ça que de l'innovation, mais il y a l'envie de dire on fait de la recherche là, et elle est coportée avec les trois regards. Donc il y a les amis d'ATD juste en dessous. Dans l'inspiration, il y a un peu le croisement des savoirs. Il y a d'autres inspirations, les sociaux, je l'ai dit en préambule, mais il y a quand même beaucoup de choses de recherche participative qui existent côté sociaux. Donc on essaye de s'inspirer de ce qui existe un peu là. Et puis, ça c'est le travail aval. Et puis on essaye d'avoir un peu amont, on essaye d'avoir aussi un petit travail aval en se disant faut pas seulement accompagner les personnes fragilisées dans l'exercice de leurs droits, faut aussi accompagner ceux qui détiennent le formatage de l'espace public, quoi. La manière de recevoir cette parole-là, faut accompagner la réception autant qu'accompagner la production. Donc on a un peu essayé de travailler là-dessus, c'est pas bien facile, mais de se dire, bon, on continue à essayer de proposer des formats de forum, des formats de mise en discussion qui essayent de symétriser de manière raisonnée les différents types de savoirs. Voilà. Cap droit, c'est ça. Et puis c'est, on en a fait un peu la première phase, on en a fait ce livret de plaidoyer, puis ce manifeste, en se disant, au-delà, il y a la dimension participative qui est la manière dont on a procédé, mais dans le fond, il y a aussi un propos sur l'exercice des droits et sur le vécu de la vulnérabilité qui n'est pas simplement un propos scientifique. On a l'impression d'avoir un propos qui peut être proposé sur l'espace public ou citoyen de discussion, d'où ce manifeste et le livret de plaidoyer. Et puis maintenant, on essaye de continuer le dialogue, parce que on essaye de continuer à faire de la recherche selon ces modalités-là, en fait. Et donc, ce qu'on appelle maintenant de la recherche citoyenne, on essaye de continuer un peu à la faire vivre. Donc, avis aux bonnes volontés, aux énergies. Et puis peut-être dans la discussion, peut-être je parlerai des difficultés de cette participation. Ça c'est ça décrit comment dire le processus. Et puis bien sûr il y a plein de grains de sable dans le processus. Et puis il y a aussi une question de fond. Alors dans le fond, qu'est-ce que ça apporte cette manière de faire de la recherche de manière un peu plus participative sur la vulnérabilité avec des personnes vulnérables, sur l'exercice des droits avec des personnes fragilisées dans l'exercice de leurs droits, quoi. Voilà.
Ok. Merci beaucoup.
Du coup, on enchaîne direct, comme ça, après, ça permet de lancer le débat. Si on lance le débat, on va pas l'arrêter.
Ok, ça marche. Moi j'ai absolument aucune expertise non plus, et d'ailleurs Le fait d'être invité comme intervenant, ça me questionne déjà, parce que justement, je m'interroge beaucoup sur les questions de posture et sur les questions de savoir et de sachant, de soigner en soigné, et du coup, de venir là avec une forme d'expérience, là, je ne me mets pas très très à l'aise. Donc une fois que j'ai dit ça, je me dédouane déjà de ça. Moi, ce que je trouvais peut-être intéressant, parce que ma modeste expérience, c'est la question de la santé communautaire. Je vais peut-être recontextualiser un petit peu pour qu'on sache tous de quoi on parle, comme ça c'est un petit peu plus facile d'en débattre. La santé communautaire, ça vient s'inscrire un petit peu autour d'un mouvement autour de la Charte d'Ottawa, qui était surtout centrée sur la question de la population santé. Et on va dire que ça part d'un principe assez simple, c'est que sur un bassin, sur un lieu donné, une communauté, qu'elle soit géographique ou culturelle, il y a des enjeux de santé qui sont communs à cette communauté, et que si on rassemble les gens ensemble autour de cette question, eh ben, il y a des solutions qui émergent, il y a une co-construction d'un savoir qui peut sortir, et donc on peut commencer par s'appuyer là-dessus avant d'arriver avec un savoir très vertical. Donc là en France, il y a 5 centres de santé qui travaillent un petit peu sur ce modèle-là, de façon plus tellement expérimentative, parce que ça fait quand même 10 ans, et que du coup, même si ce n'est pas du tout reconnu auprès des institutions, je crois que c'est quand même un modèle qui fait sens. Cette question-là de la santé communautaire et plus généralement de ce centre de santé, ça interroge aussi juste la vision de la santé, tout simplement parce que ça part du principe quand même que la santé, c'est pas limité à la maladie, c'est quand même une question d'un ensemble de facteurs, et que quand on interroge la question de la communauté, c'est aussi de se dire que la maladie et les soucis et les problèmes de santé dans son ensemble ne touchent pas des individus au hasard, mais bien des personnes qui sont dans des environnements qui leur sont défavorables. Et donc, en fait, on va dire que la santé communautaire, c'est presque... Pour moi, ça s'oppose presque à la santé publique, même à l'éducation thérapeutique. La santé publique, où il y a une administration qui vient décider de la manière dont on va soigner une communauté, et à l'inverse, la santé communautaire, qui va partir du principe que les besoins émergent de la communauté, et c'est la communauté qui vient résoudre par le bas. Et l'éducation thérapeutique, typiquement pour moi, c'est des experts qui viennent dicter des comportements, et qui n'ont pas pour vocation d'avoir justement la question de l'autonomie, hein, qui n'a pas pour vocation de donner de l'autonomie aux gens, mais plutôt de savoir comment on va rendre le plus observant possible quelqu'un sur les traitements, comment est-ce que on va le faire le mieux accepter sa maladie. Et en fait, finalement, on s'appuie assez peu sur son expérience, tu parlais tout à l'heure, hein, de son savoir expérientiel. Et donc voilà, moi je suis venue, je me suis un peu tournée là-dessus de manière presque un peu égoïste, parce que j'étais extrêmement frustrée pendant mes études et pendant le début de ma pratique, d'avoir franchement l'impression que le modèle de santé tel que je le voyais au quotidien, d'une part, il répondait absolument pas aux besoins des personnes que j'avais en face de moi. Ensuite, il était extrêmement discriminant et excluant les personnes les plus vulnérables. Et puis en plus, il mettait vachement en souffrance les soignants. Donc du coup, il y avait quand même pas beaucoup de choses positives à la sortie. Et donc, il fallait vraiment trouver... un modèle qui soit à la fois plus respectueux de la personne, plus propre, plus proche de la réalité de ce que vivaient les gens au quotidien, et puis plus valorisant et plus agréable pour les soignants. Et en parallèle, je me formais aussi en éducation populaire. Donc pour moi, l'éducation populaire et la santé communautaire, ça a été un petit peu le même principe. C'est les gens ont une connaissance, le tout est de savoir comment est-ce qu'on... on exploite cette connaissance, qu'est-ce qu'on met en pratique pour qu'ils soient en mesure d'utiliser cette connaissance au quotidien. Et du coup, la question de la participation, en fait, elle ne peut pas être une invention. C'est-à-dire que, oui, nous, notre idéal, dans nos lieux, c'est qu'il y ait de la participation au quotidien, mais c'est pas nous qui la décrétons en premier lieu. La question, c'est surtout comment est-ce qu'on fait participer, par quelle méthode, et puis quel espace on laisse à la participation. Et ce qu'on n'a pas forcément beaucoup dit, mais c'est aussi quel niveau de participation on veut. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on a très bien inscrit dans la loi qu'on voulait de la participation aux agères, qu'on voulait de la participation aux patients, mais pour l'instant, c'est très limité à des questions de représentation. Et puis, faut pas qu'on mente aux gens quand on leur dit qu'on veut qu'ils participent au niveau du centre. Bah, ok, mais qu'ils participent jusqu'à où? Jusqu'à où on est prêt, même nous, à ce que ça influence notre quotidien professionnel, notre manière de travailler. Donc tout ça, c'est déjà des questions qui sont que moi je trouve très compliquées, que même on n'a pas forcément éclairci dans notre modèle. En tout cas, ce qui est là où c'est sûr, c'est que pour moi il y a un prérequis à la participation, c'est la question de la posture. Donc ce modèle de santé communautaire, effectivement, il vient déconstruire quelque chose qui était très très bien ancré dans les pratiques de santé, qui était effectivement ce modèle très vertical, pour lequel on est très habitué en tant que soignant, et puis même les usagers et les patients sont aussi très habitués à ce qu'il y ait quelque chose de très vertical. Et c'est même, si nous on arrive à déconstruire, c'est même pas forcément très facile pour eux de déconstruire dans la pratique. Donc la question de la posture, elle s'interroge à la fois sur les espaces qui peuvent être collectifs, mais aussi dans la relation au quotidien. Et c'est pas parce que nous on est à l'aise avec une posture plus horizontale que les gens qu'on accompagne le sont. Et donc voilà, c'est déjà aussi se remettre à ce niveau-là. L'autre chose qui implique la participation, à mon avis, c'est aussi les enjeux de pouvoir au sein des différentes classes de professionnels, qui sont aussi très compliqués à déconstruire, qui sont aussi très bien ancrés. Et puis, au-delà des enjeux de pouvoir interprofessionnel, il y a aussi les questions des intersectorialités. Si on pense santé globale, on pense effectivement à tous les acteurs locaux d'un territoire, les médias associatifs, les pouvoirs politiques, et de savoir comment est-ce que toutes ces personnes travaillent ensemble alors que les langages ne sont pas les mêmes, que les cultures professionnelles ne sont pas du tout les mêmes et que les intérêts ne sont en général pas les mêmes. Voilà, donc après, je ne sais pas trop, on pourra discuter de beaucoup de choses, mais la participation, en tout cas, telle qu'on l'idéalise et on l'espère, pour nous, elle est à la fois la participation sur des espaces collectifs où on partira du principe que, avant de créer un atelier collectif, il faut déjà identifier un besoin, et que donc si on arrive avec un projet sur un territoire, avec déjà le projet écrit à l'avance, sans avoir baigné dans le territoire, ça veut dire déjà arriver avec son savoir et pas celui du territoire. Ça veut dire aussi questionner la participation au niveau de la gouvernance. Tout le monde a fait le choix d'une gouvernance partagée, et c'est déjà des enjeux qui sont compliqués en tant que professionnel qui a déjà travaillé sur la question. Alors quand il faut aussi faire entrer des usagers dans les questions de gouvernance, ça questionne encore d'autre chose. Voilà, et puis après il y a aussi la participation au quotidien, la participation dans la dualité de la relation, qui se fait, qui questionne quotidiennement et qui fait beaucoup à travailler les questions. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je serais très ravie d'échanger sur ces questions-là.
Ok, merci Camille. La parole est à la...